Alors, je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments. J'ai évité de mettre plein de tableaux, mais j'ai au moins mis deux cartes, qui étaient quand même la carte de la Franche-Comté, parce qu'on est dans l'ouest de la France, et la carte de la Suisse, parce que c'est quand même un peu plus facile d'expliquer cela avec des cartes. Alors, la zone des armées, si vous voulez, ce sont les départements qui vont en gros du territoire de Belfort jusqu'à la région, presque jusqu'à la région parisienne, et qui étaient en bordure du front. Et dans cette zone qui était quand même contrôlée par l'armée, même s'il n'y avait pas directement de combat, eh bien, on a recensé les étrangers. On a recensé les étrangers en 1915, à un moment où c'était très important, parce que vous savez qu'en France, avant, il y avait des recensements tous les 5 ans. Donc, il y avait eu un recensement avant la guerre en 1911, mais il n'y en avait pas eu à cause de la guerre. Il y aura de nouveau un recensement quinquennal en 1921. Et en 1915, on avait ce recensement-là. Et ce recensement-là, il est très bien parce qu'il recensait seulement les étrangers. Et donc, on pouvait, avec des fiches communales, une fiche par commune de toutes les communes qui comprenaient la zone des armées, dont essentiellement deux départements pour la Franche-Comté, qui étaient le Doubs et la Haute-Saône, donc les départements les plus septentrionaux de la Franche-Comté. Et on pouvait voir très rapidement qui exerçait une activité rurale, quelle était cette activité. Et en consultant cette source, eh bien, on voit que si on doit investir du temps pour étudier une migration rurale, il faut étudier celle des fromagers suisses, parce qu'ils sont extrêmement présents, en nombre, j'allais dire, en nombre absolu, ils sont quelques centaines, mais ils sont présents presque dans chaque village comtois. Donc c'était tout à fait intéressant de les étudier. Bon, alors, un peu plus tard, donc, la représentation cartographique. Et puis, c'était intéressant, les fromagers, parce que autant investir du temps sur une migration, autant que ça renvoie d'une certaine façon à l'identité comtoise. Or, le fromager en Franche-Comté, c'est celui qui produit le comté, hein, qui produira, nous allons voir ensuite, les Maintals, qui produira aussi un certain nombre de pâtes molles et d'autres fromages, mais ça renvoyait fortement à l'identité comtoise. Ça renvoie aussi fortement à un mode spécifique et coopératif qui est la fruitière. C'est en fait le nom que l'on donne, vous le savez sans doute, aux fromageries en Franche-Comté, les fromageries coopératives. Hein? Donc ça marquait fortement l'identité comtoise. Et puis, ça marquait aussi l'identité comtoise à travers les premières mises en valeur touristiques, les routes du comté, etc., etc. Donc quand on fait un choix, et je veux vous le dire, vous qui êtes en train de faire des masters, etc., faut aussi choisir un choix, enfin faire un choix qui est en relation avec souvent parfois le patrimoine et en tout cas ce qui fait sens dans la région. C'est toujours intéressant. Ça aide aussi à avoir quelques financements par la suite. Bon, ceci étant mis de côté. Mais aussi, c'était étudier les fromagers suisses qui font partie de l'identité comtoise, mais les étudier à travers un prisme particulier qui était celui de la migration. C'est-à-dire les étudier en faisant, si on veut, un pas de côté. Et ça aussi, c'est intéressant. Hein? On n'étudiait pas. Enfin, j'ai étudié aussi pour équilibrer le corpus un certain nombre de trajectoires des fromagers français, mais là, on l'étudiait à travers les étrangers. La Franche-Comté, c'est une succession une petite montagne au-dessus, où historiquement, il y avait l'activité fromagère, mais au fur et à mesure du 19e siècle et du 20e siècle, l'activité de la fromagerie, elle va descendre. Deuxième plateau, premier plateau, puis descente dans la plaine. Et aujourd'hui, ceci a été oublié, parce que notamment dans la plaine, toutes les structures et toutes les fromageries qui avaient été créées au cours du 19e et du 20e, elles ont souvent périclité dans les années 70, 80, et cela est disparu de la mémoire collective. Il y avait beaucoup d'activités en plaine, et on verra que ça a une influence importante. Et c'est la même chose en Suisse. On avait quand même un certain nombre de choses sur les structures agricoles. Il y avait eu des travaux qui avaient été faits sur les structures agricoles, à la fois en Franche-Comté et à la fois en Suisse. Si ça vous intéresse pour comparer avec d'autres régions, je vous conseille notamment les travaux de Jean Boichard sur l'élevage bovin, ces structures et ces produits en Franche-Comté, qui était un travail très ample qui a été publié à la fin des années 70, début des années 80, et qui est tout à fait important. Et puis, côté suisse, on avait également des travaux, notamment les travaux de François Walter sur les campagnes fribourgeoises, à l'âge des révolutions. À la fin du 19e, au début du 20e, vous allez avoir une véritable colonisation de la Haute-Saône par les fromagers suisses. Et c'est d'autant plus important qu'ils vont réarmer non seulement l'agriculture, mais aussi l'industrie. Hein, parce que il faut oublier que la fondation de ces structures, les fromagers suisses peuvent travailler soit dans des coopératives, mais aussi fonder leur propre affaire. Et cela, véritablement, relance économiquement ce territoire qui avait souffert au XIXe siècle d'un exode rural extrêmement fort, extrêmement fort. Et c'est la même chose pour les campagnes autour de Besançon qui vont se peupler de beaucoup de structures coopératives ou établissements privés liés à la fromagerie. Et puis, eh bien, c'est ce que je vous disais avant, dans les années 70-80, tout ça va disparaître et aujourd'hui, on est revenu à cet espace-là, hein, cet espace de la montagne et des premiers plateaux comme lieu des fromageries. Voilà. C'est arrivé au bon moment. Alors, voilà. Et donc, il y avait non seulement des travaux sur l'élevage, heureusement, qu'il y avait quand même quelques travaux pour guider quand on entre dans une recherche, mais il y avait aussi des travaux spécifiquement sur le fromage. Je vous renvoie à tous les travaux de Michel Vernu sur le comté, notamment un très très bon ouvrage assez précurseur publié en 1988 qui s'appelle « Le comté, une saveur venue des siècles », qui était à la fois, d'une certaine façon, déjà un travail grand public patrimonial, mais qui était vraiment, vraiment appuyé sur un travail d'archives important. Et puis, de l'autre côté de la frontière, en Suisse, il y avait le travail des deux professeurs ordinaires de l'université de Fribourg, donc Roland Ruffieux et Walter Bornemer, sur une histoire du gruyère, en gruyère, du XVIe siècle au XXe siècle. Là aussi, même si ces ouvrages ont aujourd'hui un petit peu vieilli, c'est intéressant de les prendre en compte, ne serait-ce que si vous travaillez sur d'autres régions, à titre de comparaison. Alors, avant d'en venir aux méthodes, il y avait aussi donc ce problème qu'on avait peu étudié en Suisse l'émigration, c'est-à-dire comment les gens étaient partis de Suisse pour aller ailleurs, et en France, on avait peu étudié l'immigration suisse. Ça, c'était aussi une limite importante pour se lancer dans ce chantier. Alors, pourquoi ? Parce qu'en Suisse, tout simplement, la vraie émigration, donc les gens qui partent, c'était ceux qui allaient en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Notamment, il y avait eu une grande thèse qui avait été consacrée à ce qu'on a appelé Nova Friburgo, une ville qui était au Brésil et où toute une partie de la société fribourgeoise s'était transposée. Et puis, alors que l'immigration en Europe, ce n'était pas une vraie émigration. Or, elle est importante dans l'Allemagne du Sud, elle est importante dans l'Italie du Nord, elle est très importante dans ce qu'on va appeler la France du centre-est, en gros, hein, de l'Alsace, si vous voulez, au Lyonnais. Et puis en France, bien entendu, déjà dans les années 2000, on s'intéressait aux migrations de plus en plus après 1945. Or, après 1945, c'est le grand déclin de la venue des Suisses en France. Hein, voilà. Alors, ce qui peut être intéressant pour vous, en préparant cela, c'est d'essayer de voir les méthodes. Alors, je pouvais m'appuyer sur des éléments macro, mais je n'allais pas être plus malin que les autres. Il n'y avait pas de grande enquête, grande étude, qui allait me permettre d'analyser finement cette migration entre Suisse et France. Donc, il fallait que j'invente autre chose et que j'essaye de chercher autre chose. C'est-à-dire de faire le choix, d'une certaine façon, de la micro-histoire, ou on va dire au moins de la méso-histoire. Hein. Donc, en clair, de reconstituer des trajectoires biographiques, et il y avait tout l'apport de la microstoria italienne, hein. S'intéresser à l'individu pour, à force, pas d'empilement, mais d'agrégation de trajectoires, arriver par induction, par méthode inductive à des choses plus générales. Et puis, il y avait aussi un phénomène qui était le développement dans la société de la généalogie. Quand on entre aux archives dans le milieu des années 2000, eh bien, on voit plein de gens qui recherchent leur père, leur grand-père, etc. Et ça, c'était une source extraordinaire parce que, justement, avec ensuite l'Internet qui s'est développé, faire des appels via ce média pour retrouver
des archives familiales pour retrouver, hein, y compris en France et en Suisse, parce que ça s'est développé en France, mais c'est assez aussi développé en Suisse, avec un peu plus de difficultés en Suisse, parce qu'en Suisse, tout est payant. Consultez les archives ou consultez certaines sources démographiques, vous devez, bien entendu, soit prouver que c'est véritablement vos ancêtres, ou alors payer un droit. Hein. Bon, ça, c'est le vieux système suisse. Mais en tout cas, le développement de la généalogie a été quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour reconstituer ces trajectoires ? L'idée, elle était de prendre en compte non seulement les gens quand ils arrivaient, quand ils avaient passé la frontière, quand ils arrivaient en Franche-Comté, mais essayer de reconstituer ces itinéraires, on allait dire, de la naissance à la mort, c'est-à-dire y compris dans la société d'origine, de prendre en compte à sa juste valeur la société d'origine et donc de mobiliser des sources qui étaient propres à la société d'origine. Alors, c'était déjà un mouvement qui avait été amorcé, et notamment par, on va dire, deux écoles historiographiques. D'abord, tous les historiens de ce qu'on appelle le monde alpin. Donc, historiens du monde alpin, qui étaient essentiellement, même s'il y a d'autres pays, italiens, suisses et français. Alors, il faut se rappeler, dans les travaux, par exemple, de Fernand Braudel, on a l'idée d'une montagne qui est une fabrique d'hommes à usage d'autrui. Hein. C'est-à-dire une montagne qui est quoi ? Qui est un réservoir d'hommes pour la plaine. Et on regarde la migration de ces hommes en étant dans la plaine et on les voit arriver. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce sont des hordes de gens parfois pauvres qui viennent trouver un emploi en ville ou qui descendent dans la plaine. Hein. Et quand on inverse la perspective, et c'est ce qu'avait commencé à faire depuis, on va dire, la fin des années 80, le début des années 90, même un petit peu avant, si on reprend les travaux de Laurence Fontaine pour la France, on avait commencé à inverser la perspective, à essayer de comprendre ben, que ces sociétés montagnardes, et notamment dans, j'allais dire pas la haute montagne, mais les espaces préalpins, qui sont des espaces particuliers, et c'est le cas de la Gruyère pour le canton de Fribourg. Pour le fromage, il y a deux régions importantes, donc c'est cette région-là, le canton de Fribourg, dont vous voyez qu'il est constitué d'une partie de plaine. Mais historiquement, autour de Bulle, ici, il y a une région de montagne qui s'appelle la Gruyère et qui est le cœur de la production fromagère. Et on verra que, comme en France, ben, peu à peu, il y aura une crise de la montagne à la fin du 19e siècle et que la production, elle va peu à peu descendre de la montagne vers la plaine. Mais c'est une région extrêmement importante. C'est le cas aussi pour Berne, hein, la région de Berne. L'Oberland bernois était important et ensuite, ça descend vers la plaine. Et pendant que j'y suis, de vous dire quelque chose. Ensuite, en France, on va retrouver, notamment au moment de la production de l'Emmental, des gens qui vont venir du canton de Lucerne, qui vont venir de la Turgovie ici, qui vont venir du canton de Zurich, etc. Un jour, bon, j'avais expliqué ça dans une conférence en Suisse, et il y a une historienne suisse qui s'appelle Alice Konisch qui me dit « Mais non, Stéphane, ce sont tous des Bernois. Ce ne sont pas des Turgoviens, etc. Ils sont nés en Turgovie, mais ce sont des Bernois. » Alors pourquoi ? Parce qu'à Berne, le système de succession fait qu'on va donner la terre aux cadets et que les autres, soit ils partent ailleurs, soit ils acceptent de devenir ouvriers sur la terre de leur cadet. Et ça va participer en Suisse à la diffusion bien, des Bernois qui vont aller diffuser la production du fromage un petit peu partout dans ces terres-là, et notamment dans cette terre-là à la fin du 19e siècle en Turgovie. Et ensuite, ces gens-là vont retourner vers la France un petit peu plus tard. J'en arrive donc première école historiographique qui avait commencé à s'intéresser aux sociétés d'origine, à inverser la perspective et à montrer que ces sociétés d'origine étaient dynamiques, donc les historiens du monde alpin. Alors, bon, j'avais mis quelques petites choses. Il y a peut-être un ouvrage, en plus il est en anglais, intéressant, de Pier Paolo Viazzo, Upland Communities. Retenez peut-être ce livre-là, il dit beaucoup de choses sur comment on étudie une société d'origine et comment on montre ses dynamiques et quelles sources on utilise pour cela. Bon, après, en France, vous avez, on peut en discuter après dans la discussion, il y a bien d'autres travaux. Hein. Dire aussi pour l'histoire rurale en tant que telle et aussi là inversion de la perspective. Avant, on se mettait par exemple à Bordeaux et on regardait comment les gens arrivaient depuis la campagne à Bordeaux. Hein. C'est la thèse, si je ne me trompe pas, de Jean-Pierre Poussou. Et puis ensuite, on inverse la perspective avec notamment peut-être un livre. Moi, j'avais lu ce livre-là à l'époque qui fait un tournant, c'est celui de Paul-André Rosenthal sur les sentiers invisibles. Hein. Espace, famille et migration dans la France du 19e siècle. Hein. On ne regarde plus là la migration depuis la ville, donc l'arrivée de quelqu'un directement depuis la campagne avec ce déversement de pauvres, etc., et cette problématique-là. Mais on les regarde depuis l'espace d'origine et on voit qu'avant de faire une migration vers la ville, ils ont souvent fait une migration à l'intérieur même de l'espace rural, avec toutes des problématiques et avec toutes des subtilités. Et il y a peut-être des géographes aussi parmi vous. C'était aussi le moment où nous, historiens, avons compris, peut-être bien après les historiens, que la migration, ce n'était pas seulement quelque chose qui allait de l'espace d'origine vers l'espace de destination, mais qu'il y avait bien des migrations circulatoires. Que les gens circulaient beaucoup entre espace d'origine et espace de destination. Que les migrations n'étaient pas toujours définitives, elles étaient en partie temporaires. Et que même quand quelqu'un avait passé, par exemple, 10 ans dans l'espace de destination, parfois il revenait dans l'espace d'origine. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, il avait participé à la pluriactivité rurale parce qu'il pouvait, à ce moment-là, rebénéficier de l'appui de la société d'origine. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été montré par les géographes qui étaient bien en avance sur nous, sur cette problématique-là. Alors, j'en arrive aux sources. Alors, ici, bon, bien sûr, pour découvrir ces sources, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Là, je vais vous le présenter, c'est la présentation de rêve, hein. Très linéaire, très facile, dire cette source-là, cette source-là, cette source-là. Mais, effectivement, trouver ces sources, ça a pris beaucoup plus de temps. Alors, j'avais essayé de mobiliser à la fois, bien sûr, vous l'avez compris, des sources françaises et puis des sources suisses. Alors, dans les sources françaises, j'avais commencé par dépouiller, donc, pour le département du Doubs et le département de la Haute-Saône, je reviens sur la carte précédente. Pourquoi on recense les gens à la fin de 1915 ? On veut commencer à les encarter. On veut commencer à leur donner un carnet d'étrangers. Et pour savoir à qui on doit remettre un carnet d'étrangers et qui est présent comme étranger dans la zone des armées, eh bien, il faut les recenser. Hein ? Je vous le rappelle. Et carnet d'étrangers, ça vous rappelle quelque chose ? Les Français n'avaient pas de carte d'identité à l'époque. Hein. Carnet d'étrangers, ça renvoie dès 1912 au carnet anthropométrique des nomades. C'est-à-dire, on a commencé à encarter les nomades. Ensuite, les étrangers. Ça, c'est tout un processus pendant la Première Guerre mondiale. D'abord, carnet d'étrangers dans la zone des armées, puis carte d'identité pour étrangers en 1917. Et puis seulement après, les Français auront une carte d'identité. Donc, utilisation de ce recensement où il y avait le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, le lieu de résidence en 1915, la profession, mais surtout, il était indiqué quand est-ce que cette personne, pour la première fois, était arrivée en France, c'est-à-dire où il avait été immatriculé. Et ça, c'est très intéressant, puisque pour chaque personne, on pouvait savoir, et de façon assez sûre, puisqu'il y avait eu une recherche des autorités, notamment de la gendarmerie, qui l'attestait, à quel moment il était entré en France. Alors ensuite, j'ai utilisé une deuxième source qui n'a rien à voir non plus avec l'histoire rurale, qui est le dossier de naturalisation. Le dossier de naturalisation, ben, il a le même avantage que le recensement précédent. Il nous donne l'état civil du demandeur et sa profession, avec le cas échéant, bien sûr, le lieu de naissance de son épouse, de ses enfants. Mais il nous donne tous les domiciles successifs de la personne depuis qu'il est arrivé en France, jusqu'au moment où il est naturalisé. Et donc ça, c'est extraordinaire. Notamment quand vous le cartographiez, puisque sinon, vous auriez été obligé de faire une cartographie uniquement au moment du recensement. Et vous perdez toute une fluidité dans la trajectoire des personnes. Et puis, dans le dossier de naturalisation, et ça peut peut-être aussi vous intéresser si vous travaillez sur les mêmes problématiques, il y a également une question, notamment dans les dossiers de naturalisation de l'entre-deux-guerres. Est-ce que vos parents sont encore vivants ? Où sont-ils ? Où habitent-ils ? Et vos frères et sœurs ? Où sont-ils ? Où habitent-ils ?
Et donc, dans le cadre de réseaux amicaux, familiaux, etc., de parentèle, c'est tout à fait intéressant d'avoir ces éléments-là, parce qu'après, ça nous sert pour reconstituer, effectivement, les réseaux qui peuvent exister. Parce que c'était aussi un des enjeux, c'était d'aller, de prendre en compte les réseaux et de prendre en compte les réseaux au-delà des réseaux uniquement familiaux et amicaux, aller bien au-delà, avec des concepts que j'avais empruntés aux anthropologues, notamment à Florence, je crois, hein, Florence Weber, donc la maisonnée, il y en a un deuxième, la parentèle. Regardez un petit peu ces concepts qui sont intéressants et qui prennent beaucoup plus largement en compte les réseaux de parenté, au-delà de la parenté proche. Et c'est intéressant à étudier. Alors, je passe bien sûr. Bon, j'ai ensuite dépouillé, avant qu'ils soient numérisés, les recensements de population quinquennaux du Doubs et de la Haute-Saône pour la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Et quand j'ai eu fini le travail, bien sûr, on a commencé à les numériser. Bon, ça, c'est une autre question. Et en complément, j'avais dépouillé les actes d'état civil les plus intéressants, et notamment les actes de mariage. Hein, parce que, et au moment du mariage, mais ça, vous devez l'utiliser en histoire rurale, vous avez aussi qui est témoin, hein, qui témoigne. Et ça, c'est très important, parce que ça nous donne des éléments tout à fait intéressants. Et puis, j'ai ensuite utilisé d'autres registres qui étaient plus liés spécifiquement à l'histoire de l'immigration. Donc, le registre d'immatriculation, il y a des lois à partir de la fin du 19e siècle sur la protection de la main-d'œuvre nationale, déjà à l'époque. Hein. Et on demande aux étrangers, dès qu'ils arrivent en France, de s'enregistrer dans la commune d'arrivée. Et on tient des registres, donc deux lois en 1888 et en 1893. Alors, tout le monde ne s'enregistre pas. Mais là, on a des éléments qui peuvent être intéressants et qui le sont. Je vous ai parlé du registre du commerce. En 1920, il y a un registre du commerce, mais un fromager qui monte une affaire. Hein, donc, il n'est pas un simple ouvrier au service d'une fruitière. Ben, doit s'enregistrer au registre du commerce. Et là, vous avez des éléments. Et comme il y a un registre chronologique, enfin, le registre du commerce, c'est un peu compliqué. Il y a deux types de registres. Hein, un registre notamment chronologique, et vous pouvez suivre cette personne jusqu'à la fin de sa vie active ou jusqu'au moment où il fait faillite. Donc vous pouvez le suivre sur toute une partie du XXe siècle, et c'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a les dépôts de marques, toutes les entêtes de facture, et dans les entêtes de facture, vous avez souvent RC, donc registre du commerce, avec son numéro registre du commerce. Si vous trouvez son entête de facture, il y a des collections dans toutes les archives départementales de France ou des sites spécialisés où on peut trouver des factures sur Internet. Vous pouvez retrouver rapidement son numéro au registre du commerce et le suivre. Les dossiers de faillite, bien entendu. Et puis, les actes notariés. Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Une fois que j'ai eu fait tout ce travail, je me suis intéressé aussi à qui fondait des entreprises, etc. Et retrouver les actes notariés intéressants. C'est souvent quelque chose qu'on laisse de côté parce que c'est un travail un petit peu difficile. Mais si vous trouvez dans le bon canton le bon notaire, faut trouver le bon notaire, vous avez tout, ou pratiquement. Hein, vous avez beaucoup d'éléments. Voilà. Ensuite, bon, donc des sources qui sont les rapports de police, les rapports de gendarmerie, également... des témoignages des descendants, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis la presse. Hein, la presse est à un moment où elle commençait à être ossérisée. Parce qu'avant que la presse ne soit ossérisée, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À partir du moment où la presse est ossérisée, en tapant un mot, vous pouvez regarder toutes les occurrences dans les journaux qui sont contenus aux archives départementales, ça change tout. Et on trouve des choses très bien. Alors, côté Suisse, bon, bien sûr, j'ai utilisé des recensements communaux suisses et j'ai utilisé différents types de sources. Mais je voudrais m'arrêter sur les archives notariales, etc. Je ne vais pas recommencer. Mais je voudrais m'arrêter sur, si un jour vous travaillez sur des problématiques suisses, une source qui est intéressante. C'est un registre. En Suisse, vous avez une commune de naissance. Et vous avez une commune d'origine. Alors, la commune de naissance, bon, tout le monde sait ce que c'est la commune où vous êtes né. La commune d'origine, c'est la commune d'où viennent vos ancêtres, y compris vos anciens lointains, et dont vous êtes bourgeois. Et cette commune de bourgeoisie, elle devra s'occuper de vous si des fois vous êtes à l'assistance publique un jour. C'est-à-dire si vous avez besoin d'argent. Donc on n'accepte pas tout le monde comme bourgeois. Mais tous les actes qui vous concernent, quel que soit le lieu où ils sont produits dans le monde, sont renvoyés à cette commune d'origine. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que pour une personne, vous pouvez retrouver, si bien sûr ils ont été renvoyés, ce n'est pas toujours le cas, où il s'est marié, quels ont été ses enfants, etc., etc. Alors, là, il y a eu un biais important. J'ai pu, à un prix relativement modique, après avoir fait beaucoup de lettres, parce qu'ils sont conservés non pas aux archives, mais dans, on va dire, des bureaux d'état civil qui se trouveraient, si on veut faire l'équivalent avec la Suisse, dans chaque chef-lieu de canton. Donc on écrit une lettre et on dit « Non, non, je ne veux pas payer à chaque acte. J'ai des centaines d'actes à chercher. Si je paye 50 francs pour chaque acte, je vais me ruiner. Faites-moi une autorisation générale et dites-moi combien je vous dois. » Et là, c'est extraordinaire, c'était 150 francs. Donc, et j'ai pu utiliser cette source. Donc c'était super pour le canton de Fribourg. Après, j'ai voulu faire la même chose pour le canton de Berne. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été niet. Non. Aucun accès à cette source, donc c'était un bien important dans ma recherche. Et c'est bien dommage, parce que pour le canton de Berne, je vous ai parlé tout à l'heure des migrations des Bernois vers la Turgovie, etc., dans tout l'espace suisse, puis ensuite dans l'espace français, le manque de cette source a été un problème, et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, j'ai encore fait ma dernière demande il y a 6 mois, mais bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça, c'est notre problème. En France, si vous avez un problème dans n'importe quelle archive départementale, vous faites une demande et c'est à peu près les mêmes personnes qui le traitent à Paris, eh bien, en Suisse, il faut aller dans chaque canton et négocier dans chaque canton. Et c'est un petit problème. Voilà, donc sur les sources suisses aussi, alors c'est les mêmes qu'en France, mais il y a aussi tous les fonds consulaires. Il se trouvait que le classement suisse est très bon, et donc le fonds avait été très bien classé au consulat de Besançon, a été transmis aux archives à Berne, et on les avait conservés. Et puis, il y avait aussi des registres de passeport, mais qui ne sont pas très intéressants, parce que, justement, on n'avait pas toujours besoin d'un passeport pour venir en France, sauf au moment de la guerre, où on devait solliciter un passeport, mais ce n'est pas très bien. Il y avait aussi toute la presse. Alors, on m'avait dit, consulte la presse suisse, c'est intéressant. Je me suis dit, bon, la presse suisse, qu'est-ce que ça va m'apporter? Bien, c'était très bien, parce que les Suisses, au 19e siècle et au début du 20e siècle, quand il y avait un Suisse, quand il y avait un enfant du village qui obtenait un prix dans une exposition importante, eh bien, on en faisait le compte-rendu dans la presse locale. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup de sources grâce à cela. Alors, après vous avoir présenté cet itinéraire, vous avoir présenté les sources, je vais vous présenter quand même quelques résultats pour vous montrer ce qui a été intéressant. Alors, j'ai pu déterminer au 19e siècle, j'ai commencé à la fin du 18e, en fait, l'acte le plus ancien que j'ai pour un contemporanéiste, c'est déjà loin, c'est l'acte du 15 mai 1740. Donc, c'est le mariage d'un maître fruitier qui s'appelle Ulderic Tingeli, hein, Tingeli comme l'artiste Marie-Nikit Saint-Phal, hein, c'est un nom typiquement fribourgeois. Originaire du petit village de La Roche en Gruyère, donc dans la montagne, et qui épouse une fille de Pontarlier, enfin de Adomartin, qui est tout près de Pontarlier. Donc vous voyez bien que c'est une migration qui allait à l'origine de la montagne vers la montagne. Et c'est le cas au 19e siècle en grande partie. Il y a un flux de fromager fribourgeois qui vient de la Gruyère et qui va s'installer dans la montagne jurassienne, hein, dans cette région. Cette région-là, cette région du haut. Alors, je passe, et ce qui était intéressant, c'est, une fois qu'on avait reconstitué toutes ces trajectoires, c'est de voir un petit peu les temporalités. Qui migrait, comment? Et les temporalités, elles étaient assez différentes. En fait, elles étaient assez différentes en fonction de la place que vous occupiez dans le groupe de parenté. On s'apercevait que
si vous étiez un mari, un époux, hein, donc les pères et les fils, migraient pour moins d'un an. Et bien sûr, la femme était laissée pendant un an à s'occuper de l'agriculture, mais aussi, et ça c'est tous les travaux de l'histoire du genre, à faire toutes les activités quotidiennes, y compris à passer des contrats, etc. etc. Mais bon, l'absence excédait rarement un an, et était, je crois que j'ai deux cas où elle excède deux ans sur 1000 trajectoires. Donc, c'était bon. Par contre, si vous étiez un oncle, donc quelqu'un qui n'était pas marié, par exemple, hein, bien vous pouviez rester 7-8 ans à l'étranger. Et comme vous continuiez à participer à la pluriactivité familiale, vous pouviez ensuite réintégrer le groupe de parenté à l'espace d'origine. Hein. Bon. Donc, deuxième élément que j'avais pu mettre en évidence à l'intérieur de la société fribourgeoise, c'était intéressant, c'est que les migrations, jusqu'à la fin du XIXe siècle, après ça change, n'étaient pas des migrations de rupture, mais c'était seulement un élément de la pluriactivité. Donc, vous aviez des activités agricoles, mais bon, sur des pentes qui sont comme ça, l'activité agricole, c'est difficile, vous aviez bien sûr une activité d'élevage. Vous aviez un petit peu de proto-industrialisation rurale, ils tressaient la paille. Mais bien sûr, l'essentiel du bénéfice était fait par le marchand argovien qui amenait la paille à l'automne et qui venait rechercher le produit fini au printemps. Et donc, ce qui vous amenait le numéraire, ce qui vous amenait une grande partie du revenu, bah, c'était l'émigration de certains membres du groupe familial vers l'étranger ou vers d'autres cantons suisses quand on était dans... également, il y avait aussi de la migration intérieure. Mais bon, ceux qui m'avaient intéressé, c'était ceux vers l'étranger. Et ça changeait la vision de ce qu'était l'immigration, y compris dans l'historiographie suisse. Parce que cela, on ne l'avait pas pris en compte et on voyait le départ comme quelque chose de définitif et quelque chose qui ne participait pas à ce qu'on appelle, vous le savez, la reproduction sociale. Voilà. Et j'avais étudié, c'était le cas de... Je sais ce numéro-là. D'une parution donc en 2014 dans Histoire et Société Rurale, le petit village de Cerniac qui était extrêmement exemplaire et qui est au cœur de la Gruyère. Vous pouvez le regarder si ça vous intéresse dans ce numéro-là. Deuxième élément qui était intéressant et qui remettait en cause un certain nombre d'idées reçues, c'est que tous les Suisses qui arrivaient en Franche-Comté n'étaient pas des gens super formés et qui avaient plein de compétences. Bien sûr, il y en avait, des gens comme ça qui avaient plein de compétences. Mais, alors, vous le savez, il y avait aussi quelque chose de substrat, je fais une toute petite parenthèse. Il y avait l'idée qu'il y avait un retard en France dans la formation, c'est pas totalement faux, et que les Suisses étaient très en avance grâce à leurs écoles, et qu'ils formaient des gens très bien pour migrer chez nous de l'autre côté de la frontière. C'est pas tout à fait le cas, parce qu'en regardant les itinéraires véritablement, vous voyez qu'il y a des gens bah, qui arrivent en Franche-Comté grâce au réseau migratoire qui est ouvert, mais qui n'ont pas de qualification particulière. Et après, ils vont aller se former chez un compatriote, rarement chez un Français, chez un compatriote qui est déjà lui-même présent en Franche-Comté. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Je vous rappelle que donc, la formation tardive, et c'est ce que nous donnent les visions des agronomes en disant on est très en retard, l'école d'industrie laitière de Mamirol à côté de Besançon, c'est 1888, donc la Troisième République. L'école de Poligny, qui était une école départementale, qui est aujourd'hui une école nationale, c'est 1889. Mais avant, dans les simples écoles d'agriculture, il y avait des formations, et il y a donc cette formation, on va aller dire, dans le secteur privé, qui n'est pas si négligeable que ça. Hein. Voilà. Alors ensuite, à la fin du 19e, il y a donc la crise de la montagne et ce que je vous disais, la descente vers la plaine. Hein. Bon, c'est bien connu, la Troisième République essaye d'ailleurs de mettre fin à cette crise de la montagne. Il y a plein de dispositions législatives pour cela. Et c'est la même chose dans le canton de Fribourg. Également, on essaye. Mais la production va de plus en plus vers la plaine. Et c'est aussi un moment où il y a l'arrivée d'un nouveau produit. Hein, on produisait donc du gruyère en Suisse et du comté en France. Alors, ne me demandez pas qui a la plus vieille charte. Chacun a retrouvé sa charte et pense que ça remonte au Moyen-Âge, alors que bah, les procédés de fabrication ont largement changé fin 18e, 19e. Hein, mais bon,
Ça, c'est autre chose. Mais on peut le dire, l'Emmental est, lui, typiquement, là, on ne peut pas s'en défendre, un produit suisse qui était massivement importé en France. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que l'Emmental? Est-ce que c'est juste un gros gruyère qui est plus gros que le gruyère et donc qui permet d'être vendu plus largement? Et vous le savez, ben, il y avait un débouché important qui était la marine. Et la marine aime avoir des gros pains de fromage à l'époque. Alors, il y a plusieurs façons de le produire, parce qu'on le voit dans les archives, en fait, quand les Français vont essayer de le produire, et notamment à l'école d'industrie laitière de Mamirole, on va dire, bah, notre façon de produire, elle n'est pas bonne, il faut prendre la manière de fabrication des fromagers suisses qui, eux, savent mieux la produire. Donc, la façon de produire, et donc ce qu'est, in fine, l'Emmental, fin 19e, début 20e, c'est pas encore bien stabilisé. Mais ce qu'on est sûr, c'est quelque chose, un pain qui est beaucoup plus gros que le gruyère et qui donc va mieux s'exporter pour la marine, mieux s'exporter sur les deux principaux marchés qui sont les marchés lyonnais et bien sûr parisiens. Donc, à l'extrême fin du 19e siècle et à la belle époque, vous avez un afflux croissant de fromagers qui sont originaires donc de Berne.
Je vous remets la carte de la Suisse.
Mais aussi d'autres espaces, donc la Turgovie, Saint-Gall, Lucerne, etc. Donc ça se développe. Alors, où vont-ils s'installer? Ils vont s'installer, c'est assez logique. Si on retourne sur la Franche-Comté, je vous ai dit, c'est plus gros, donc il faut plus de lait. Donc, vous avez deux stratégies. Soit vous vous installez ici, dans la région historique de production, parce que là, il y a eu plus de lait, notamment il y a eu des fusions entre les coopératives, donc vous avez du lait pour fabriquer les l'Emmental, ou alors vous décidez de vous installer dans des espaces où personne ne collecte encore, c'est-à-dire en Haute-Saône. Et ça va être un des choix, et aussi du point de vue de l'histoire de l'immigration, c'est donc des gens qui sont des germanophones, qui arrivent à partir de la fin des années 1880, surtout 90, et à la Belle Époque, dans un espace, et donc des gens qui parlent allemand. Hein. Bon, je vous expliquerai ce qui va leur arriver pendant la Première Guerre mondiale. Ça va être un petit peu difficile. Là aussi, je l'ai déjà dit tantôt, il faut se rendre compte que pour un département comme la Haute-Saône, c'est une revitalisation économique. Un territoire qui avait beaucoup souffert du déclin démographique et qui, d'une certaine façon, revitalisé. Avec cette particularité, avec l'immigration alémanique, que ce sont des gens beaucoup plus indépendants, qui vont certes en partie travailler dans les fruitières, fromageries coopératives, mais qui vont souvent se mettre à leur compte. Se mettre à leur compte parce qu'ils ont un peu plus de capital. Se mettre à leur compte. Ils prennent plus de risques, mais bien sûr, ils conservent une plus grande partie de la valeur ajoutée. Et alors, vous avez tous les journaux qui se plaignent de la disparition de l'esprit coopératif. Malheureusement, nous sommes depuis quelques années menacés d'une sorte de marche en arrière. Fabrication, chalet, outillage subsistent et demeurent en usage. Mais le fruitier ou fromager, au lieu de rester un employé de coopérative, devient un entrepreneur. C'est généralement un fromager suisse. Une fois installé, il en appelle d'autres. Aujourd'hui, sur 300 fromageries dans le Doubs, 4/5, ça c'est un petit peu trop, ont passé aux entrepreneurs. Hein. Mais vous avez toute cette dimension qui est importante. Alors, je vous le dis, donc c'est le cas en Haute-Saône et dans le Doubs. Dans le Jura, par contre, pendant très longtemps, on va rester attaché à la coopérative, on va rester attaché aux gruyères de comté, hein, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le comté, beaucoup plus, et l'Emmental y pénétrera beaucoup moins. Alors, je vais vous parler d'un itinéraire intéressant, qui est celui de Charles Martin. Alors, Charles Martin, vous ne le connaissez pas, et pourtant, dans l'histoire rurale française, il a eu une importance. Il est né en 1862 dans un petit village du Doubs qui s'appelle Uzy, mais qui était un des premiers comices agricoles du département. Donc déjà terre d'innovation. Charles Martin, il fera le lycée à Besançon, il va faire l'Institut agronomique de Paris, il finira deuxième de sa promotion en 1883. Et comme jeune ingénieur agronome, il va entreprendre un voyage de 3 ans, différentes missions d'études, hein, qui vont l'amener à se familiariser avec l'industrie laitière. Il ira en Suisse, en Allemagne notamment, et aussi un pays qu'on oublie toujours pour l'industrie laitière, qui est le Danemark, hein, qui joue un rôle important à la césure du 19e siècle et du 20e siècle. Et lorsque Jules Viette, qui a été député du Doubs, donc du même département, devient ministre de l'Agriculture et décide en 1888 de fonder l'École nationale d'industrie laitière de Mamirol, ben, il en confie bien sûr la direction à un homme qui a l'avantage d'être à la fois un homme du cru, mais d'avoir acquis par ses études et par ses voyages ben, toutes les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission. Et à ce moment-là, eh bien, Charles Martin, il voit la difficulté de l'industrie fromagère, et donc de cette crise de la fin du 19e siècle dont je vous parlais, et de sa grande fragilité. Et il veut remédier à la crise latente en essayant de développer la production d'emmental, aussi pour réduire fortement les importations depuis la Suisse. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il commence par introduire, au début des années 1890, la fabrication de l'emmental à l'École nationale d'industrie laitière de Mamirol. Et ensuite, il va lui-même se lancer dans la production d'emmental. C'est-à-dire qu'il va se mettre en disponibilité de l'École d'industrie laitière de Mamirol au début du 20e, c'est en 1902 ou 3. Oui, c'était en 1903. Et créer la société qui s'appelle l'emmental français. Donc, quelqu'un quand même de conviction qui... Alors, il avait bien sûr suivi tout le processus d'installation des fromagers suisses. Et d'une certaine façon, il leur avait donné des médailles lors de différents concours agricoles. Il avait un petit peu regardé ce qu'il faisait, notamment les plus importants. En fait, vous avez, petite parenthèse, un des principaux importateurs d'emmental en France et en Franche-Comté, donc, qui était en Suisse et qui, à cause des droits douaniers très importants qui sont mis par la France, va s'installer en France. Et va contrôler, je n'ai pas encore fini de dépouiller tout ça, mais près de 60 fromageries dans l'Est central. Donc c'est énorme, en 1900, de contrôler 60 fromageries. Et lui est un des principaux importateurs, producteurs et développeurs de l'emmental en Franche-Comté. Après la Première Guerre mondiale, il s'installera en région parisienne. Notamment, il va avoir une... rue de la Grande Truanderie, donc juste à côté des Halles à Paris, une maison de négoce importante, et il finira à Marly-le-Roi, où les taux sont encore un petit peu prohibitifs chez le notaire pour trouver son acte de succession. Mais je ne doute pas que les tarifs se réduisent rapidement. Et pour comprendre un petit peu, parce qu'il est vraiment un acteur important. Donc, en côtoyant ces acteurs importants, Charles Martin, il crée la société l'emmental français, mais bien entendu, comme les premiers suisse de l'emmental en Franche-Comté, la Première Guerre mondiale va être un coup d'arrêt important. Et on voit que au cours de la guerre ou juste après la guerre, eh bien, les affaires peu à peu périclitent. Hein. Et c'est quand même quelque chose qui a été oublié, mais est important. Vraiment, fin 19e, début 20e, il y a ces deux choses. À la fois Charles Martin et autour de lui un certain nombre de banquiers parisiens, lyonnais, comtois, et toute la société comtoise qui l'entoure, parce que dans la société qu'il crée, dans les actionnaires, il y a toute une partie de la société comtoise. Bon, c'est quelque chose qui a été oublié. Alors, vous dire une sorte de grande conclusion, puisque j'en suis arrivé bientôt à la fin de mon temps, vous dire que dans l'entre-deux-guerres, quand même, l'emmental triomphe. Il y a une enquête agricole en 1929 et on se rend compte que dans le département du Doubs, bien, il y a plus d'emmental que de comté qui est produit. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le comté a repris véritablement la première place, mais en 1929, c'est l'emmental qui est devenu le premier. Donc, malgré la guerre, malgré le fait que les affaires ont périclité, il y a eu des relais, et je suis en train d'étudier ces relais, de voir qui a pris le relais et comment ça se déroule. Alors, Après, il y a un deuxième coup d'arrêt important. Alors, même deux coups d'arrêt en deux fois. Il y a la crise des années 30. Et dans la crise des années 30, ben, on accuse les Suisses de venir voler le pain des Français. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est le travailleur frontalier français qui vient manger le pain des Suisses. Eh bien, dans les années 30, et ça, on le voit grâce aux interventions sans relâche du consul de Suisse qui défend ses compatriotes dans différentes affaires où ils sont tabassés, invectivés, etc., c'est bien les Suisses. Et donc, certains vont partir à ce moment-là. Et puis, il y a un deuxième moment de césure, c'est la Seconde Guerre mondiale. Avec les archives suisses et avec les archives qui sont conservées dans les archives suisses, on voit que ça a été un moment extrêmement difficile pour ces fromagers suisses, et notamment pour les alémaniques. Parce que quand les autorités d'occupation sont arrivées dans les villages, qui parlait allemand ? Et qui allait faire le traducteur entre les autorités allemandes et le maire du village ? Ben, c'est le fromager suisse. Et donc, très rapidement, il est pris à partie. Après, on l'accuse, bien entendu, de servir plutôt les Allemands que de servir le maquis. Et il y a un certain nombre de règlements de compte. J'en ai trouvé une cinquantaine qui se font après la guerre, avec des procès et quelques exécutions sommaires. Donc c'est un autre moment d'arrêt. Bien sûr, ensuite, non seulement c'est un moment d'arrêt, mais après 1945, l'émigration suisse vers la France, de toute nature d'ailleurs, pas seulement l'émigration agricole, se tarit fortement. Et après, bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir des années 60, 70, 80, ces affaires familiales commencent à péricliter. Enfin, il n'y a pas de successeurs, et notamment celles qui sont en pleine ferme. Mais il en reste des traces. Malgré l'anonymisation, il reste des affaires importantes. Lorsque Lactalis, donc le groupe Beignet, au début des années 90, il ne produisait pas de comté, il n'avait pas quelque chose à mettre sur le marché concernant le comté. Il va donc essayer de racheter une affaire importante. Et il rachète une entreprise qui s'appelle Philippona. Philippona, c'est un nom typique du canton de Fribourg. Et il la rachète, et j'ai fait l'histoire de cette société. En fait, l'implantation en Franche-Comté remonte aux années 1880. Un petit fromager de la montagne fribourgeoise, de la Gruyère, arrive en France et développe son activité jusqu'aux années 90, donc plus de 100 ans quand même. Elle est centenaire en 1883, et dans les archives de l'INA, on retrouve la célébration d'ailleurs du centenaire de cette société. C'est ce groupe-là. J'ai interviewé ensuite les descendants qui m'ont expliqué, alors pas tout, hein, combien ils avaient, comment ils avaient vendu et comment après ils ont dû combattre les groupes coopérateurs qui n'étaient pas très contents qu'ils aient vendu au loup pour que le groupe Beignet Lactalis aujourd'hui s'implante dans le Jura. Mais voilà, il y a ces traces-là. Mais bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces qui sont diffuses de cette histoire. Mais elle est sortie des mémoires. Elle est d'abord... Les bâtiments ont souvent été de ces fromageries anonymisées. Maintenant, vous passez à côté, vous ne les reconnaissez plus. Puis cette histoire est sortie des mémoires, et pourtant ça a eu une influence extrêmement importante sur l'industrialisation rurale, notamment de la Haute-Saône et du Doubs. Voilà, j'en ai terminé.